RFI Matin.
C'était hier à Paris, l'inauguration par Emmanuel Macron du Salon international de l'agriculture, dans un contexte difficile pour le secteur, en France comme ailleurs. De plus en plus vulnérable aux conséquences du changement climatique et exposé à une demande qui ne cesse de croître. Qu'il s'agisse d'augmenter les rendements agricoles, de rendre les cultures plus responsables ou de mieux rémunérer les producteurs, l'agriculture est en constante évolution et les innovations sont innombrables. Quatre exemples ce matin dans notre tour du monde des correspondants, qui commence au Kenya, pays où l'agriculture est un pilier de l'économie. Elle représentait 21% du PIB en 2023 et emploie 40% de la population, voire 60% en zone rurale, selon les autorités. Pour aider les agriculteurs qui sont souvent des petits exploitants, des applications mobiles se développent. Alban Tiroir.
Au Kenya, les petits exploitants agricoles font face à de nombreux défis. Difficultés d'accès au marché, d'achat de semences et d'engrais, manque de matériel ou encore manque de connaissances. Pour les soutenir, plus d'une cinquantaine d'applications numériques étaient à leur disposition en 2023, d'après une estimation de plusieurs chercheurs. Parmi eux, Twiga Foods, son application met en lien producteurs et vendeurs, puis vendeurs et acheteurs, le tout en facilitant la chaîne logistique. La start-up se targue d'avoir été adoptée par plus de 1000 agriculteurs et 140 000 vendeurs. Autre exemple, l'application DigiCow, qui permet aux éleveurs laitiers d'accéder des informations concernant leurs animaux, d'interagir avec leurs pairs ou encore de tenir les registres de leurs fermes. Au Kenya, souvent surnommée la Silicon Savannah, ces applications se multiplient donc dans un pays déjà habitué au portefeuille mobile grâce au succès de M-Pesa.
Alban Tiroir à Nairobi, tout autre paysage dans un pays où l'agriculture ne produit que 40% des besoins en nourriture de la population. Nous sommes au Japon, où seuls 25% des terres sont cultivables et où la moyenne d'âge des agriculteurs est de 67 ans. Parmi les solutions mises en avant, une technique peu gourmande en eau et en engrais et qui sert aussi à remettre en culture des zones agricoles contaminées. On parle de la culture sur film, Frédéric Charles.
La culture sur film permet de faire pousser des légumes dans n'importe quel environnement. Le film s'appuie sur un matériau conçu à l'origine pour traiter les reins humains. Un polymère hydrophile en gel intégré dans les couches jetables. La culture sur film utilise des feuilles imperméables pour séparer les plantes cultivées du sol qui se trouve en dessous. Le film absorbe les éléments nutritifs mais interdit le passage des germes et des virus. Les plantes produisent de plus grandes quantités d'acides aminés et de sucre. Elles sont plus riches en goût et en valeur nutritive. Cette culture sur film a été créée par le docteur Yuichi Mori, un chercheur en physique des polymères. C'est une technique facile à utiliser par des jeunes sans expérience de l'agriculture, note le docteur Mori. Elle permet de transformer des sols stériles en base de production d'aliments de grande qualité.
Frédéric Charles à Tokyo, cap à présent sur les Pays-Bas, où les fermes verticales commencent à gagner du terrain. C'est loin d'être le premier pays à pratiquer cette innovation. La plus grande ferme du genre en Europe est au Danemark. Mais pour les Néerlandais, cette option incarne l'avenir en milieu urbain pour les Pays-Bas bien classés. Sur le vieux continent, l'agriculture néerlandaise occupe le cinquième rang de l'UE, alors que c'est l'un des plus petits pays, Pierre Benazet.
Les Pays-Bas, c'est le pays le plus densément peuplé du continent, plus de 500 habitants au kilomètre carré, à tel point que les géographes, en plaisantant, se demandent s'il ne faut pas plutôt classer les Pays-Bas comme une ville de faible densité. Et pour les urbanistes néerlandais, l'avenir devra passer par l'agriculture en ville, d'autant que la surproduction bovine bata va engendrer une forte pollution aux nitrates. Résultat, le nombre de fermes verticales est en augmentation, mais elles sont aux premières étapes de leur croissance. Quelques faillites ont d'ailleurs déjà eu lieu. Les plus grandes sont à Helmond, Bois-le-Duc et Amsterdam. Même si une étude allemande a montré que la culture de légumes dans une installation verticale générait jusqu'à 16 fois plus d'émissions de CO2 que la culture en plein champ, ses partisans soulignent que la proximité avec les consommateurs permettrait de réduire de 60% les coûts en réduisant transport et intermédiaires. Et vu l'abondance d'eau, les expériences vont plus loin que les fermes verticales avec de l'aquaculture à la haie et un élevage bovin flottant à Rotterdam.
Pierre Benazet, et puis dernière étape aux États-Unis où des exploitations agricoles commencent à se tourner vers les robots et l'intelligence artificielle pour effectuer des tâches jusqu'ici assurées par des humains. Lubna Anaki, certaines exploitations ressemblent désormais à des décors de science-fiction.
C'est exactement ça, hein. Imaginez des serres, des champs avec des robots ou des machines équipées de bras articulés et qui s'activent pour planter, désherber, cueillir. Des scènes de plus en plus fréquentes ici. Équipés en plus d'intelligence artificielle, ces robots savent exactement quand il faut arroser et combien d'eau utiliser. Quand une fraise, par exemple, est prête à être cueillie, il y a même des robots pollinisateurs qui imitent le travail des abeilles. Dans certains cas, cela réduit le gaspillage de 25% et augmente considérablement les récoltes, car contrairement aux êtres humains, eh bien, les robots peuvent travailler jour et nuit. Et pour de nombreux experts, ces nouvelles technologies permettent de pallier la pénurie de main-d'œuvre et pourraient même aider à mieux faire face aux effets du réchauffement climatique.
Loubna Anaki à New York et notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez sur RFI.fr.